de thèmes sont au menu de la tribune de ce vendredi 17 février 2017, à savoir le ministre d'État en charge du budget a déclaré mercredi dernier au cours d'un point de presse qu'il est difficile au gouvernement congolais de dégager 1,8 milliard de dollars américains pour organiser les élections cette année. Le ministre d'État évoque la modicité des recettes dont souffre l'actuel budget. Et dans notre second thème, nous parlerons de plusieurs foyers de tension qui s'observent en RDC depuis quelque temps, causant mort d'hommes et d'importants dégâts matériels. Participe au débat Peter Tiani, le directeur général du Vrai Journal, partenaire à CCTV et certains autres médias quinois. Peter Tiani, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Claude Molicho, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC en sigle. Il est également coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Claude Molicho, bonsoir.
Bonsoir Kelly, écoutez.
Et Gaston Mouchid, directeur général de la Radio-Télévision Manica, émettant à Kolwezi dans la province du Lualaba. Gaston Mouchid, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Merci de nous suivre en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, voyons comment les journaux quinois ont analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Alain Hong.
Bonsoir. La question de l'organisation des élections en RDC fait la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Le potentiel titre « Le gouvernement se dévoile, pas d'élection en 2017 ». Programmer les élections pour un coût global estimé par la CENI à 1,8 milliard de dollars américains est loin de la capacité du gouvernement, a confessé mercredi dernier le ministre d'État chargé du budget cité par le quotidien. Tout est possible si nous avons un peu plus d'argent. Mais en attendant, nous avons trouvé la casserole non seulement vide, mais également trouée avec un déficit de beaucoup de milliards de francs congolais. Avant de commencer à la remplir, il fallait d'abord boucher les trous. Voilà la situation qui est la nôtre en ce moment, a déclaré Pierre Kangoudia, ministre de budget, relais le phare. La sonnette d'alarme est donc tirée, renchérit Forum des As qui titre à la une « Il est impossible de mobiliser en cette année 1,8 milliard de dollars pour les élections ». Une sonnette tirée plus par un technocrate préoccupé par la gestion concrète des recettes et des dépenses publiques que par un politique qui se contente de fredonner le refrain populaire poursuit le quotidien. L'avenir corrobore la pensée de Forum des As et note « Pierre Kangoudia alerte la communauté internationale ». La prospérité voit en la sortie médiatique de Pierre Kangoudia un appel à la mobilisation maximale des recettes. En croire le ministre du budget, si l'on suit le rythme des déficits budgétaires, tels qu'ils ont été constatés dans la casserole, non pas vide mais bien trouée de l'État, à l'arrivée de l'actuel gouvernement Badibanga aux affaires, il y a des risques de ne point réussir le pari d'organiser les élections. La presse quinoise s'est aussi intéressée au bilan de la perquisition de différents sites de Bundu, Diamayala à Kinshasa. Forum des As titre, 8 blessés graves et une vingtaine de personnes interpellées. Deux véhicules 4x4 appartenant aux particuliers ont été incendiés et une personne a été blessée par les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala de Zakari Nemwandansemi. C'est le bilan provisoire établi par la police nationale congolaise, livré par Forum des As qui cite Radio Capi. Le bilan de ces accrochages qui ont commencé lundi 13 février dernier dans la commune de Ngiringiri fait état de 22 personnes interpellées et 5 armes saisies. Avis de recherche contre Nemwandansemi, titre pour sa part le phare. À ce sujet, le potentiel alerte, il faut craindre la contagion. Terminons par l'avenir qui revient sur les obsèques de Tshisekedi et qui titre « C'est du chantage et c'est odieux ». La prospérité reprend la même analyse et titre « Étienne Tshisekedi, pas de dérive autour des obsèques ».
Merci Alain Hung pour cette revue de presse. Claude Molicho, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Vous êtes également coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Avant d'aborder les débats de ce soir, on va commenter un peu ces sujets qui restent d'actualité, c'est cette controverse autour des obsèques d'Étienne Tshisekedi. Pour la famille, ces obsèques doivent être consécutives à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà. Kelly, j'ai toujours dit que nous, Africains, nous ne pouvons pas vraiment marchander un corps d'un illustre disparu comme Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Et je déplore l'attitude de son enfant, de son fils Félix Tshilombo, Antoine, qui est rentré au pays alors que son père n'a pas encore été inhumé. On parle de ce samedi qui sera enterré à Bruxelles, je ne sais pas, voyons voir. Mais en principe, nous devrions d'abord enterrer Étienne Tshisekedi wa Mulumba, quelqu'un qui est très connu, qui a combattu la dictature mobutienne et qui doit être honoré par le peuple congolais, avant de poursuivre les discussions politiques, comme a si bien dit le ministre Lambert Mende Malanga. C'est ça le bon sens même d'un bantou, d'un africain, parce qu'on ne peut pas laisser d'abord les corps de côté et puis discuter des affaires politiques parce qu'on veut devenir ministre coûte que coûte.
Alors est-ce que c'est un chantage, comme le dit l'avenir?
Tout à fait, c'est un chantage parce que on veut monter les enchères par croyant que non, l'accord est là, l'accord stipule que le premier ministre sera issu du rassemblement de l'opposition barre rassemblement. Donc c'est clair, on va exécuter l'accord, mais c'est pas pour autant dire que non, il faut abandonner le corps du Tshisekedi au froid pendant des mois et des mois ou des semaines et des semaines et pour exiger le poste du premier ministre. C'est vraiment déshonorant pour la famille Tshisekedi.
Peter Tiani, directeur général du Vrai Journal, partenaire à CCTV et certains autres médias quinois. Peter, votre analyse sur ce souhait de la famille Tshisekedi de voir la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016.
Vous parlez de souhait, mais si on essaie de scruter, on se rendra compte qu'il ne s'agit pas de souhait de la famille, mais de la position de la base. Ça veut dire, la base veut que le testament de Tshisekedi, qui est l'accord de la Saint-Sylvestre, soit mis en application. Vous vous rendrez compte que depuis la signature de cet accord, il y a un camp qui a multiplié de prétexte pour ne pas mettre en pratique cet accord. Tantôt on a signé sous réserve, tantôt on veut que qu'on nous donne plusieurs noms candidats à Premier ministre, tantôt on veut avoir tous les ministères de souveraineté. Aujourd'hui, Tshisekedi est mort. Zaïdi Ngom était mort, on n'a pas mis fin aux travaux de la cité de l'OUA. Mwando Simba est tombé, on n'a pas mis fin à l'accord qui avait commencé. Pourquoi mettre fin aujourd'hui? La République continue.
Mais qui a demandé de mettre fin aux travaux de la SEMCO, Peter?
Parce que pour les uns, ils estiment que Tshisekedi est mort, tout doit s'arrêter, on doit d'abord enterrer Tshisekedi, et puis après, continuer après. Moi, je dis non. Moi, je pense que la population aujourd'hui estime, quand je parle de la population, je parle plus précisément de combattants que j'ai scrutés en Europe, et de certains ici, quand on descend au siège de l'UDPS, toute cette foule qui veut aujourd'hui la mise en pratique de cet accord, qui veut obligatoirement, peut-être le terme n'est pas choisi, mais qui veulent rapidement qu'on mette un Premier ministre et qu'on évolue. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai l'impression que l'UDPS est en train maintenant de supplier, en fait, le Rassemblement est en train de supplier la majorité d'appliquer l'accord. S'il ne s'agissait que d'un avis personnel, parce que là je parlais d'un avis au sein de l'opinion qui voulait que cet accord soit mis en pratique, un avis personnel serait aujourd'hui, on va en parler par rapport à la déclaration du ministre du budget, un avis personnel aujourd'hui serait que Félix ou ceux de l'UDPS devaient se prendre en charge et dire en fin de compte, bon, l'autre camp a fait preuve de mauvaise foi, on se retire, on continue le combat dehors. Parce que ça risquerait de donner maintenant l'impression que j'ai, moi, que l'UDPS et sa famille sont en train de faire main basse à la majorité pour que la majorité respecte un accord qu'elle a signé.
Gaston Mouchid, directeur général de la radio-télévision Manika, émettant à Kolwezi dans la province du Lualaba. Gaston Mouchid, votre lecture par rapport à cette controverse, faut-il commencer par la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre où il faudrait finalement enterrer Étienne Tshisekedi qui nous a quittés il y a plus de deux semaines maintenant?
Je crois qu'il y a deux possibilités. La première, c'est que on enterre Tshisekedi, on continue avec les rencontres, et la deuxième, c'est que on finit, parce que, à mon avis, très humble avis, il reste pas grand chose. Dire des évêques hier, c'est que la majorité et l'opposition devraient s'accorder sur un certain nombre de petits points. Mais c'est dommage que ce soit et la majorité et l'opposition qui durcissent les temps. Parce que on dit qu'il faut seulement seulement donné 4 ou 3 noms. Je ne sais pas si au rassemblement, il n'y a pas des grandes pointures. S'il n'y a qu'une seule personne qui a le profil d'être Premier ministre, s'il y en avait d'autres, je crois qu'il est facile de présenter 3 ou 4 noms et qu'on ait un Premier ministre de manière à s'occuper du social de la population. Mais en attendant, les rassemblements durcissent les temps. Du côté majorité, la même chose. Le rassemblement présente un nom et on ne veut pas signer parce que on n'est pas d'accord, il faut 4. Donc on trouve des prétextes pour aller en longueur avec des choses qui pouvaient être réglées rapidement. Parce qu'entre-temps, que ce soit l'enterrement de Tshisekedi avant ou après, il faut voir les sociaux de la population. Il faut voir aujourd'hui, les pays souffrent. On a des inflations, on a un problème de hausse de prix de denrées des premières nécessités, et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Moi, je pense que les deux devraient se mettre d'accord pour trouver. Hier, déjà, la CENCO a rencontré la majorité et le rassemblement, mais si ces gens peuvent, dans un bref délai, parce que les Congolais sont champions, même pour des assises qui doivent prendre 2 jours, on peut les prolonger pour en faire 10 ou 20. Il suffit de s'accorder et de régler cette question. Je crois que c'est intéressant de trouver des solutions. Mais pour revenir à ce que Claude a dit, il condamne que Félix soit rentré au pays, alors que le gouvernement attendait, dès la bouche de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, on attendait des interlocuteurs de la famille pour cibler des sites où doit pour trouver un site qui peut être utilisé pour l'enterrement de Tshisekedi qui est décédé. Mais qu'il revienne, et on ne dit pas qu'il ne va pas rentrer, venir avec les corps, ce n'est pas, à mon avis, un problème qui mérite d'être condamné. Il est venu, il va s'entretenir avec les autres. Pour nous, le peuple, c'est qu'une solution soit trouvée très rapidement, au lieu de... Parce qu'en même temps, si ça traîne, aussi les rassemblements ont une part des responsabilités, la majorité aussi. Si ça traîne, on devrait terminer les accords il y a plusieurs jours. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas terminé? Pourquoi est-ce qu'on continue à bloquer la signature? Donc, alors, les Gaston, deux portent les chapeaux.
Alors, Gaston, rapidement, qu'est-ce qui fait l'actualité dans le Lualaba aujourd'hui, brièvement?
Bon, disons que l'actualité est beaucoup plus dominée, d'abord par la montée des cours de cuivre. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, les cours sont allés jusqu'à 4 000 la tonne. Aujourd'hui, les cours se négocient autour des 6 000, donc ce qui est une avancée importante par rapport à l'économie nationale. Même le budget en a souffert. Et aussi, Glencore, qui est une organisation basée en Suisse, qui a pris de participation que tenait Dan Gertler dans la société Mutanda Mining. Aujourd'hui, Glencore détient 100% de participation comme capital à Mutanda Mining et 86,3% au Katanga Mining, qu'on appelle KCC. Et donc, on estime que cette participation qui remonte, il y a des choses qui peuvent changer parce que l'économie de la République démocratique et de la province du Lualaba ou de l'ancienne province du Katanga dépend essentiellement des cours des métaux. Merci. J'imagine que ça risque de remonter la pente.
Merci Gaston Mouchid, premier thème de ce soir. Il est difficile au gouvernement congolais de dégager 1 milliard de dollars américains pour organiser les élections cette année. Déclaration du ministre d'État en charge du budget lors d'une conférence de presse organisée mercredi dernier à l'hôtel du gouvernement. Au lendemain de cette déclaration, Pierre Kangou Diambaï dit vouloir préciser sa pensée car mal interprété. Il n'a jamais été question de la non-organisation des élections 2017 au cours de cette conférence de presse, affirme-t-il. On l'écoute au micro de Jacques-Yves Molima.
Le gouvernement n'a jamais dit qu'il ne va pas organiser les élections cette année. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il ne va pas mobiliser des moyens pour financer les élections cette année. Ce que je dis, je le dis, je répète, il n'est pas possible de mobiliser 1,8 milliard pour un processus à étaler sur 3 ans, mobiliser ce montant pour un seul exercice budgétaire. C'est ça la différence.
Vous parlez là en tant qu'un technicien, mais vous êtes aussi politique. Est-ce que ces propos-là, vous l'assumez en tant que politique?
De quels propos parlez-vous? Si c'est pour dire qu'il n'y aura pas 1,8 milliard de dollars cette année, je l'assume. J'assume aussi le fait de dire que nous allons mobiliser les moyens pour financer les élections pour ce qui est prévu cette année. Le gouvernement va se réunir. Moi, je ne peux pas ici décider à la place du gouvernement. Le gouvernement va se réunir avec la CENI et voir ce qui pourra être possible d'être fait, on le fera.
En réaction aux propos du ministre du Budget, les rapporteurs de la CENI précisent que ce montant de 1,8 milliard de dollars couvre tout le plan triennal de tout le processus en cours et non pas la seule année 2017. Le gouvernement devrait donc saisir officiellement la CENI pour préciser le montant qu'il peut mettre à sa disposition et la CENI pourra recourir à d'autres partenaires pour combler le déficit, a expliqué Jean-Pierre Kalamba. Peter Tiani, après cette déclaration du ministre, il y a eu plusieurs réactions de la classe politique congolaise. D'abord, vous-même, comment vous avez analysé cette déclaration avant la mise au point du ministre Kangouja?
Je suis très embarrassé de parler du ministre Kangouja, quelqu'un que je connais personnellement, pour avoir travaillé avec. Nous avons été dans l'Est, à Goma, Beni, Bukavu, avec Vital Kamerhe. Est revenu, nous avions parlé avec lui pendant longtemps, quand nous avons été fusillés par Marcel Chissambou à Bukavu, avec lui, Kangoudia. Quand nous étions ici, Fatima, on a parlé pendant longtemps, lorsqu'ils avaient fait une déclaration pour... ils étaient encore au sein de la dynamique. Je suis sidéré pour la première sortie médiatique de quelqu'un que je connais, très engagé dans le combat pour le développement de ce pays, d'avoir de propos de la sorte. Une sortie, comme d'aucuns ont qualifié en lingala tolobi basimbisi et touche. Ce que le ministre a dit, il a été contredit par, la première fois d'ailleurs, par le ministre Mende,
par le porte-parole du gouvernement,
par le porte-parole du gouvernement qui dit que ça n'a jamais fait objet d'un conseil de ministres. C'est déjà grave. Deuxièmement, mais c'est le rapporteur de la CENI qui vient encore contredire il corrige même ce qu'a dit le ministre. Ce ballon d'essai passé par le gouvernement, mais dans la bouche d'un ministre de l'UNC. UNC, un parti qui s'est battu pour l'organisation des élections. Lorsque Vital Kamerhe a été côté de tous les monts, il est allé à la cité de l'OUA pour avoir l'accord de la cité de l'OUA. Il a dit nous sommes venus ici pour arracher une date pour les élections. Cette date a été arraché à la SENCO. Aujourd'hui, le ministre dire qu'il est impossible d'avoir des élections cette année, c'est vraiment, alors vraiment regrettable. C'est comme Thomas Louaka qui, de l'opposition aussi, a fait une première sortie, et sa première sortie qu'on retient dans l'histoire, c'est qu'il nous avait coupé les réseaux sociaux pendant les manifestations ici. Et c'est un autre ministre de l'opposition, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui va vraiment jeter, ouvrir même la boîte à Pandore pour dire qu'il n'y aura pas élection.
Alors, il s'est ressaisi pour dire que son propos avait été mal interprété. Il avait plutôt tenu à démontrer que techniquement, le montant global évoqué par la CENI était c'était quasiment impossible d'avoir ce montant-là organiser ces élections.
Il a été corrigé par le rapporteur de la CENI. Et pire, quand on parle de 1,8 million de dollars, dans 1,8 milliard, mais c'est tout un exercice. Ça a commencé quand? Est-ce que ça a commencé avec Kangoudia ou ça a commencé avant? Mais en 2016, nous sommes au mois de janvier, et il s'appelle comment le président de la CENI, Nanga, nous a dit qu'il fallait 16 mois pour organiser les élections. C'est comme ça qu'il a lancé ses opérations et il projetait pour 2017 au mois de juillet. Ils sont allés à la cité de l'OIA, ils nous ont dit c'est au mois de mars 2018. Ils sont allés à la CENCO, ils ont conclu pour fin 2017. Comment peut-il nous dire qu'il veut mobiliser des fonds pour des élections comme si le travail commençait à se faire aujourd'hui et le travail qui a commencé à se faire depuis que Nanga était là? Donc, ce budget-là, c'est de 1,8 milliard depuis que Nanga était là jusqu'aujourd'hui, avec tous ces enrôlements qu'on a fait à gauche, à droite, il n'y a rien qui a été décaissé. Ça reste toujours 1,8 milliard. Et c'est 1,8 milliard, le ministre nous dit, ce ballon de sel ne peut malheureusement pas passer parce qu'au sein du parti UNC, nous avons de... Excusez-moi de finir par là, madame. Vous avez des gens comme Billy Kambale, un brillant jeune qui a dit que si nous passons 2016, Kabila reste, notre génération réunit tellement existé. Vous avez brillant de jeunes comme Dr Sélé qui a dit qu'on n'accordera pas une demi-journée à Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Kabila est au pouvoir.
Merci.
C'est l'UNC qui devrait dire cet accord qui doit être respecté en 2017, mis en application par les élections. Et c'est l'UNC qui nous dit qu'il n'y aura pas élection.
Merci Peter.
Je suis tombé sur les pommes, malheureusement.
Vous, comment vous avez analysé ces propos du Premier ministre qui a créé quand même, qui a suscité une polémique au sein de la classe politique congolaise? Ballon d'essai, comme le dit
les propos Peter du ministre d'État chargé du budget.
Du budget, oui.
Voilà, bon, Kangoudia c'est un expert, il a travaillé au budget depuis un temps, même s'il est de l'UNC bien sûr, mais moi je me dis, même s'il faut de temps en temps tenir un discours de vérité, et c'est ça les droits ou l'obligation de rendre compte, il faut tenir un discours de vérité de temps en temps, peut-être la projeter en tant que technicien parce que il est du secteur, mais il n'a pas réuni tous les paramètres. Parce que quand il dit que non, on a mal interprété ses propos, moi je me dis non, parce que sous une autre forme, il a dit que non, il n'y aura pas élection cette année. Pendant que tous les Congolais attendent les élections. Vraiment, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, tout le monde veut aller aux élections pour mettre fin à cette cacophonie que nous vivons tous les jours. C'est pour vous dire que c'est le type des acteurs politiques qui cherchent à accéder au pouvoir, et quand ils sont au pouvoir, ils oublient tout ce qu'il faut faire en tant que responsable pour faire avancer la République. C'est ça les grands problèmes. Et il n'y a pas eu
concertation avec la CENI. Il a été peut-être réaliste, comme vous venez de le dire. Il a essayé de dire la vérité aux gens, non, pour dire, écoutez, les élections, il n'y a pas d'argent.
Non, c'est vrai qu'il y a un problème de mobilisation des recettes. La situation économique est très morose. Et il a voulu montrer aussi que les déficits budgétaires laissés par le gouvernement Matata nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui, même si on dit que Badibanga a réduit de 500 milliards à 16 millions à 500 milliards à 3 millions, c'est-à-dire que Badibanga a essayé un peu d'aller de l'avant. Mais moi, je me dis que aujourd'hui, les dollars s'échangent aujourd'hui à 1400, 1350 francs congolais. La situation est catastrophique. Il faut vraiment un sursaut d'orgueil. Et ça, c'est le gouvernement, parce que le chef de l'exécutif, jusqu'à preuve du contraire, c'est le chef de l'État. Et même s'il y a un premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Mais le chef de l'État est appelé vraiment à tracer des lignes pour essayer un peu d'éviter encore des dérapages et amener le peuple, amener la CENI, ou soit financer les opérations électorales au niveau de la CENI, et pour que cette fois-ci, qu'on aille aux élections sans tergiversation, parce que nous ne voulons plus vraiment trébucher, et nous voulons aller aux élections. Et cette façon de déclarer publiquement, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Le gouvernement, c'est toute une équipe, et il faudrait assez que les gouvernements se réunissent et étudient qu'ils posent des problèmes au niveau du gouvernement, s'il y a problème de mobilisation effective des recettes.
Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau même du gouvernement.
Oui.
Comment un ministre d'État peut déclarer chose et qu'il soit contredit
par un autre
membre du gouvernement.
Même au niveau de la primature, vous savez, un premier ministre, il y a un problème aujourd'hui, c'est pas bien secret entre le ministre et la justice et le premier ministre, qui sont en train de se tirailler. Le premier ministre dit, donne des orientations autrement, et le ministre de la justice fait autre chose. Et aujourd'hui, on a vu entre le ministre d'État chargé au budget et le porte-parole du gouvernement. Donc, il n'y a pas cohésion au sein du gouvernement Badibanga, et ça nous donne une leçon. Et nous disons que le gouvernement qui viendra, si c'est ce qu'est dit Félix, qui sera premier ministre ou quelqu'un d'autre, nous voulons assez que qu'on nous livre encore un autre discours, qu'on ne livre pas un autre discours, que nous allions tout droit aux élections, parce que
merci.
C'est le souverain primaire qui doit effectivement trancher.
Gaston Mouchid, comment vous analysez cette situation?
Il est déplorable, comme l'a dit les prédécesseurs, qu'un vice-ministre vous dise qu'on ne peut pas organiser les élections parce qu'on ne peut pas mobiliser 1,8 milliard. Et le lendemain, deux jours plus tard, il a corrigé parce qu'il a été contre-attaqué. À ce niveau, est-ce que c'est un vice-ministre qui ne peut pas savoir que...
Ministre d'État, il n'est pas vice-ministre. Il est ministre d'État chargé du budget.
Voilà, je disais que, ministre d'État chargé du budget, lui ne sait pas que la CENI a dit que les 1,8 milliard, c'était pour prendre en charge l'ensemble du processus électoral. Et tout le monde sait que l'ensemble du processus électoral ne s'aligne pas sur une année budgétaire. Donc il y a comme ça plusieurs années, mais que ce soit lui qui dise qu'on ne peut pas mobiliser ça. Comme si les opérations qui se tiennent aujourd'hui d'enrôlement des électeurs n'ont pas coûté de l'argent. Parce que si on prend en compte l'ensemble du budget, c'est-à-dire qu'il a dedans l'enrôlement, fait partie de l'argent qui devait être déboursé. Donc il y a déjà un pas qui a été fait. Aujourd'hui, s'il y a un déficit, on ne devra pas débourser 1,8 milliard parce qu'il y a déjà des opérations qui sont en cours d'exécution. Et que le ministre nous apprenne que la casserole était trouée, ça c'est une belle information. Qui a dit que Matata n'a pas laissé une casserole en forme? Personne ne l'a dit. Lui, au moins, il a eu le courage de dire aux gens que la casserole était trouée. Mais on a démontré que Matata avait un bilan positif et qu'il a bien géré ce pays, mais qu'il nous laisse une casserole trouée et que le ministre du budget puisse le dire à la place publique. Je crois qu'il y a certainement des problèmes. Peut-être qu'avait-il l'intention de tenter la population pour, comme on a dit, faire un ballon d'essai, voir quelle sera la réaction de la population. Est-ce qu'on peut geler ou on ne peut pas geler? Mais moi, je pense que c'est quand même déplorable pour un ministre de faire des déclarations comme ça, sans tenir compte de la réalité, et sans oublier que le gouvernement dont il fait partie, c'est un gouvernement qui a pour mission d'organiser les élections.
Peter Tiani, il y a le député Christophe Lutundula qui estime que par cette déclaration, il est clair que le gouvernement actuel n'a aucune intention d'organiser les élections.
Les gens doivent savoir une chose, madame. Peut-être que les gens oublient, ils doivent retenir très bien. Les gens ne veulent pas les élections pour les élections. Les gens ne veulent pas les élections par plaisir d'aller voter. Les gens veulent un changement, madame. Maintenant que nous parlons avec vous, s'il est 16h-17h, les stations service ferment. Moi, j'ai eu du mal à m'approvisionner en carburant hier, la nuit. Ça monte. Les gens ne savent pas. Ils doivent, parce qu'il y a un problème. Regardez au marché, le dollar. Un monsieur était ici à la primature, nous a parlé de la croissance économique. Maintenant, il est à Kindu, je ne sais pas où. Il nous a parlé d'une croissance. Il a trouvé le dollar à un prix. Il l'a emmené jusqu'aujourd'hui à 12. Aujourd'hui, nous sommes à 13 avec le gouvernement Badibank. Vous vous rendez compte? Les gens veulent quoi? Ils veulent être respectés. Ils veulent, quand ils disent quelque chose, quand le gouvernement dit quelque chose, cela est respecté. Ils veulent qu'il y ait des dirigeants qui savent répondre des idératas du peuple, que le militaire ne soit pas à la merci de quelqu'un. Qu'un militaire, un major, n'ait pas 140 000 francs, 145 000 francs, un colonel à 150 000 francs, un policier qui est dans un sous-siat pour se nourrir, madame. Dans mon quartier où je suis, à midi, le policier sort. Lorsqu'ils sortent, ils font ce qu'on appelle les tinsani. Là où maman sautait comme mapa, maman sautait comme mikat, ils prennent des 500 francs, 500 francs, dans les marchés comme ça, ils rentrent pour préparer. Cette vie-là, c'est cette vie que les Congolais ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils veulent voter, pour avoir des dirigeants. C'est quand même pas normal. Regardez le lac Kivu, madame, ce lac donne du courant au Rwanda. De notre côté, c'est un danger pour notre pays. Il faut avoir des dirigeants. Les gens doivent avoir honte quand ils parlent à la télévision. Donc, nous sommes dans un pays où quelqu'un peut se battre, prétendre qu'il se bat pour le pays. Mais lorsqu'il arrive quelque part, il a $1 million en poche, il commence à nous lancer des choses comme ça, comme si dans ce pays nous étions des moutons. Les gens doivent savoir et prendre ça très au sérieux qu'au sein de la population, il y a cette frustration. Les gens sont passés le 19 décembre, les gens veulent voter. Ils ont cru à la SENCO, ils ont cru à cet accord. Et ils pensent que aujourd'hui, c'est cet accord qui va nous emmener vers les élections. S'il y a des individus qui s'évertueraient à pouvoir lancer des choses comme ça, ils s'en prendront à la nation eux-mêmes.
Claude Molichou, il appartient à la seule CENI de pouvoir dire s'il y aura élection ou pas cette année en RDC. Ce sont les propos-là du député Kakwata.
Oui, effectivement, mais de toute façon, il faut que le gouvernement, qui a les moyens de la politique au niveau de la gestion de la chose publique, donne ses moyens à la CENI, pour que la CENI puisse être capable de bien planifier, d'exécuter sa politique d'organisation des élections à tous les niveaux. C'est ça le problème. La CENI, c'est un organe technique, le gouvernement vient en appui financier, et les partenaires peuvent venir aussi en appui matériel, comme la MONUSCO le fait avec les avions, et puis... Il y a des pays amis qui peuvent intervenir financièrement pour essayer un peu de pousser l'air des Congo ou le peuple congolais à aller voter, à aller aux élections. C'est ça les problèmes. Mais le gouvernement ne doit pas vraiment essayer un peu de tester ou de jeter le ballon d'essai pour essayer un peu de faire écrouler tous ces efforts-là, des négociations, parce que nous sommes dans les négociations, obtenir l'accord de la cité de l'Union africaine, arriver à la CENCO, et nous voulons vraiment que les choses reviennent à normal, et vous voulez encore écrouler ce qu'on est en train de bâtir. C'est pas bon, comme ministre Kangoudia, et je pense que c'est une équipe, l'équipe de Badibanga. Ils doivent se réunir et essayer un peu de parler de cette question au sein du gouvernement, que c'est le gouvernement qui a son porte-parole puisse le dire au public et que les gens sachent effectivement que le gouvernement a décidé de débloquer tel montant ou que le gouvernement est dans l'incapacité de mobiliser des moyens pour essayer un peu d'aller de financer la CENI.
Alors Gaston Mouchid, avec cette situation, est-ce qu'il est plus que temps de mettre en pratique finalement l'accord de la Saint-Sylvestre avec la mise en place d'un nouveau gouvernement?
Il est impératif de mettre en place la mise en pratique de ces accords-là, parce que c'est des accords qui ont calmé la situation. La RDC était à bord de l'implosion. Et quand il y a eu la signature, les gens se sont mis d'accord, on s'est dit majorité, rassemblement, donc majorité opposition, mettez-vous ensemble et trouvez-nous une solution. La solution a été trouvée partielle. Donc, si on peut avoir un gouvernement qui peut prendre en charge non seulement les élections, mais également le social de la population. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas politicien, tout le monde ne veut pas être ministre, mais tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin que ça marche. Mais alors, dans cette incertitude, nous avons un gouvernement qui ne sait pas quand est-ce que son mandat finit, parce que si ces accords sont signés, peut-être que demain ou après-demain, on va devoir nommer un autre ministre, premier ministre, qui va avoir son gouvernement. Et dans une situation d'attente, les ministres qui sont là ne travaillent pas avec cœur, parce qu'ils se disent que demain ou après-demain, je peux lâcher. Ils ne s'occupent pas du social de la population, parce qu'ils se disent, nous allons partir peut-être. Il est intéressant qu'on mette un gouvernement qui s'occupera du social de la population et qui va mobiliser des recettes pour organiser les élections de manière à éviter cette crise de légitimité. Parce que faute de quoi, il y a comme ça des tensions qui naissent à gauche et à droite, et ces tensions ne sont pas d'humeur à aider la République à aller de l'avant.
Merci Gaston Mouchid. Puisque vous parlez des tensions, la RDC en proie depuis quelques temps à des foyers de tensions où des milices, des tribus adeptes des mouvements politico-religieux affrontent les forces de l'ordre. C'est notre deuxième et dernier thème de ce soir. Franklin Loutchaka nous dresse les tableaux des récents conflits qui ont dégénéré et causé mort d'hommes.
Prenons le cas de la province de Tanganyika. Certaines sources affirment qu'il s'agirait d'un conflit de terres qui oppose les Pygmées aux Bantous, pendant que d'autres sources estimeraient que c'est le souci d'émancipation des Pygmées qui se sentent marginalisés. Ce conflit qui perdure depuis des mois et qui tend à s'élargir à d'autres parties de la province de Tanganyika a causé la mort de plus d'une centaine de personnes, des milliers de déplacés et des dégâts matériels considérables. Dans le Grand Kasaï, c'est la milice du défunt chef coutumier Kamuina Nsapu qui est aux prises avec les forces de l'ordre. Pas plus tard qu'hier lundi, les affrontements ont coûté la vie à une vingtaine de personnes et plusieurs sources affirment que ces miliciens s'en prennent aux symboles de l'État. Hier lundi et aujourd'hui mardi, ce sont les membres du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala qui se sont affrontés à Kinshasa avec les forces de l'ordre. Hier lundi, dans la soirée, d'après certaines sources, sur l'avenue Bosenge dans la commune de Ngiringiri, ces personnes scandaient des slogans hostiles au président de la République. Les affrontements se sont poursuivis ce mardi autour de la résidence de Nemwanda Nsemi, leader de Bundu Diamayala. Rappelons qu'il y a quelques semaines, d'autres affrontements à répétition ont opposé les adeptes des BDM et les forces de l'ordre à Kinpese, dans la province du Congo central. À la base, un conflit interne à ce mouvement opposant le leader et son vice-président.
Gaston Mouchid, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Manika émettant à Kolwezi, dans la province du Lualaba, des foyers de tension observés depuis quelques temps. En RDC, dans le Grand Kasaï, une milice se réclamant du défunt chef coutumier Kamuina Nsapu affronte les forces de l'ordre. Dans la province du Tanganyika, des violences opposent les Pygmées aux Bantous. À Kinshasa et au Congo central, les adeptes de Bundu Diamayala font face à la police et à l'armée. Comment vous analysez cette situation?
D'abord, je pense qu'il faut condamner avec la dernière énergie des mouvements qui mettent en péril la vie des populations. Quels que soient les codes ou les noms, on ne peut pas encourager des manifestations qui finissent par tuer des gens partout, que ce soit dans la province de Tanganyika, que ce soit au centre, que ce soit à Kinshasa et ailleurs. Il y a toujours, on déplore toujours mort d'homme. On a vraiment intérêt à ne pas en arriver jusque-là. Il est intéressant que quand il y a des problèmes, qu'on revendique par de voies démocratiques, que de prendre les armes parce qu'on tue des civils, on tue des gens. Et ces gens-là, c'est même ça, c'est ces gens-là qu'il faut gouverner. Si on tue les gens, la police aussi qui devrait s'occuper de maintien de l'ordre est en train de tirer à balles réelles sur des manifestants, ce qui n'est pas intéressant. Moi, je pense aussi que, de part et d'autre, il est vrai que quand une population, comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille, quand il y a une manifestation, quand il y a des revendications, c'est intéressant que les conflits soient réglés, gérés par l'État. L'État, c'est lui le père de la nation. C'est l'État congolais qui a pour tâche de sécuriser sa population. Il y a un conflit. Pourquoi est-ce que au centre, les gens s'entretuent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ces conflits-là à l'amiable? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ces problèmes des Bundu Diamayala? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler les conflits entre Pygmées et Bantou? À quoi finalement sert le rôle de l'État si ce n'est pas pour arbitrer des conflits et trouver des solutions sans recourir aux armes, sans que le sang coule? On a déjà perdu beaucoup de gens dans ce pays. À l'est de la République démocratique du Congo, on dénombre des millions de morts. Et est-ce qu'il faut encore continuer à tuer? Il faut encore continuer à voir des gens mourir? Moi, je pense que non. Les gouvernements devraient se ressaisir et essayer de négocier avec ceux qui sont lésés et de trouver des solutions à la viable. Moi, je crois que le dialogue peut régler. J'ai vu des pancartes partout, on a dit dialoguons et il faut dialoguer pour régler les problèmes. Pourquoi on ne dialogue pas avec Bundu Diamayala? Pourquoi on ne dialogue pas avec Kamwena Sampo? Pourquoi on ne dialogue pas avec les Pygmées et les Bantous? Je crois qu'il est important de régler cette question par le dialogue.
Merci.
Mais également aussi, il est intéressant que nos forces armées et nos policiers aillent se battre à l'est contre les ennemis ADF et les autres.
Merci,
c'est là
Gaston.
Qu'ils doivent tuer les ennemis, pas tuer la population civile.
Merci Gaston Mouchide, Peter Kenny, directeur général du Vrai Journal, partenaire à CCTV et certains autres médias quinois. Peter, les gens se demandent pourquoi le gouvernement n'arrive pas à maîtriser ou à mettre fin à toutes ces tensions dans différentes provinces de la RDC. On se pose finalement la question, est-ce que ce sont des tensions qui sont entretenues quelque part?
Je dirais oui et non. Une opinion estime qu'on ne veut pas organiser les élections, comme d'ailleurs le ministre Pierre Kangouyel a déjà dit qu'on ne sera pas en mesure de le faire, et par conséquent, on va créer des foyers de tension à gauche et à droite pour pouvoir donner sens à cette affirmation. Mais de l'autre côté, il faut réfléchir. Kamwena Nsapu, Nemwana Nsemi et tout. Prenons les cas de Nemwana Nsemi. Moi, je me pose la question, parce que je ne vais pas parler des cas dont je n'ai pas moi-même suffisamment d'éléments. Nemwana Nsemi, moi, je suis allé sur le Vrai Journal a même filmé. On a même diffusé les images. Où je vois les gens en train de lancer des petites pierres. Je ne sais pas, moi, on parle des noix de palme. Mais j'ai vu, on ne voit pas ce qu'ils lancent, mais on voit qu'ils lancent des histoires comme ça. Et j'ai vu la police replier. J'étais sur place, on était un peu... On a couru dans tous les sens et tout. Mais je voulais savoir, on veut arrêter Nemwana Nsemi, mais pourquoi? Je suis en train de savoir la raison de son arrestation. On veut l'arrêter, pourquoi?
Outrage au chef de l'État.
Il a fait cette outrage.
Il a diffusé une vidéo qui circule.
J'ai vu une vidéo de Nemwana Nsemi disant qu'il faut chasser les Rwandais. Tous les Rwandais dehors. Si c'est ça que vous faites allusion, c'est pour ça qu'on veut l'arrêter. Moi, je vais m'abstenir de dire aux Rwandais d'être dehors. Si vous avez autre chose, vous savez, vous êtes au courant d'autre chose, je ne sais pas, on peut nous dire. Mais je veux savoir, on le cherche, pourquoi. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, mais pourquoi dans ces pays, vous utilisez toujours des moyens assez brutaux pour arrêter une fourmi? On a vu avec Franck Diongo, on a vu un déploiement militaire qu'on attend dans l'est de la RDC. Lorsque c'est les M23, lorsque c'est la situation précaire, on ne voit pas cet arsenal militaire. Mais quand il a s'agi de prendre Diongo, il fallait voir ce qui a été fait. Pareil pour Nemwana Nsemi. Heureusement ou malheureusement pour Nemwana Nsemi, c'est une résistance. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Il s'est transformé en fourmi, en souris. Il est sorti quelque part, il est toujours là. Mais on ne l'a pas pris. Mais cette brutalité, est-ce que comme Gaston ne l'a pas dit tantôt ici, qu'il faudrait La victoire par les armes ne signifie toujours pas la fin de la guerre. Est-ce que le... c'est comme avec Kamon Nsapu, lorsque vous attaquez, j'aurais même appris qu'il serait tué Kamon Nsapu, mais la situation n'a pas été résolue. Est-ce que lorsque vous utilisez la force, vous êtes sûr d'avoir résolu le problème? Ou est-ce qu'il y a des frustrations, des vraies questions de fond qu'il faudrait résoudre pour arriver? Kamon Nsapu veut quoi? Kamon Nsapu veut quoi?
Donc, la solution, ça serait quoi? Le dialogue, comme l'a proposé Gaston?
Mais, parce que, par exemple, pour le cas de Nemo Nantemi, vous avez négocié, semble que vous avez négocié avec quelqu'un, après vous l'avez tourné en bourrique. Et puis après, bon, il dit, je vais frapper. Bon, comme il va frapper, nous, maintenant, c'est outrage. On est un peu perdu dans cette histoire. Mais moi, j'estime que pour pareille situation, il faudrait résoudre le problème par rapport au fond, pas par rapport à la forme, et utiliser la brutalité qui, quelquefois, ne résout rien.
Merci, Peter Tiani et Claude Moulichot. On va conclure avec vous. Quel est votre point de vue par rapport à tous ces foyers de tension qui s'observent en RDC?
Non, d'abord, je voulais un peu répliquer sur ce que vient de dire mon confrère Peter et même Gaston, qui préconisent tous deux
les dialogues.
Non, et puis régler les questions fondamentalement dans le fond et non... moi, j'ai dit que, mes frères, est-ce que le gouvernement n'a pas négocié avec Nemo Nsapu? Le chef de l'État lui-même a convoqué, lorsqu'on préparait le dialogue national, toutes les couches socio-politico, c'est pas associatives, ont été convoquées et Nemo Nsapu était parmi les gens qui ont été convoqués parce que c'est, d'abord c'est une députée nationale et puis c'est un président.
C'était pour prendre part au dialogue de la cité de l'Union.
Effectivement, quand on veut dialoguer avec la classe politique, la classe sociopolitique, c'est pour faire quoi? C'est pour résoudre des questions qui se posent au niveau national. Et Nemo Nsapu a posé tout ce qu'il fallait poser comme condition, comme préalable, comme il a fait comme suggestion. Et après, Nemo Nsapu a continué à siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Et quelques temps après, il commence à proférer des injures contre l'autorité établie.
Mais il faut se poser
et
la question,
à s'attaquer même au sommet de l'État.
Pourquoi?
Comme il y a quelques années, et vous vous souvenez, il y a 4 véhicules qu'on a perdus, 5 armes qui ont été saisies, il y a des morts d'hommes, il y a 22 personnes interpellées, oui, blessées graves. Non, c'est tout ce qui a été récolté comme données dans ces échauffourées entre les forces de l'ordre et les militaires.
On va aller à l'essentiel, Claude Moulichot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, et c'est ce que moi j'ai mis. C'est déplorable.
Donc pour vous, le gouvernement doit frapper fort, doit utiliser la force.
Madame, quand on commence à attenter à la vie de l'État, quand on commence à exporter la violence sous la voie publique, le gouvernement a l'obligation. Où les pouvoirs publics ont l'obligation de réprimer, ça c'est de la rébellion pure et simple, et il faut qu'on réprime, comme on le fait ailleurs. Et ce n'est pas la même situation que ce qui se passe dans la province du Tanganyika, là où il y a les pygmées et les bantous qui s'affrontent par coups de flèche. Ce n'est pas la même situation avec... qui se passe dans les Kasaï, là, c'est avec le chef
Kamon
Nsapu, ce n'est pas la même situation. Et Kamon Nsapu réclamait qu'il soit établi, que son pouvoir soit établi par le gouvernement provincial de Kananga. Et il a eu des problèmes avec le gouverneur et ça a créé des soulèvements. Mais avec le monde en semi, ce n'est pas la même situation. Ça, c'est la rébellion parce que c'est un récidiviste. Il y a quelques années, 5 ans, 6 ans, c'était les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets dans la province du Congo central. Et aujourd'hui, le gouvernement,
merci,
ou soit le pouvoir public, a l'obligation de réprimer ceux qui veulent amener encore du désordre dans la capitale.
Merci Claude, merci Peter, merci Gaston Mouchit. C'est la fin de cette émission. Merci Alain Hung qui était à la réalisation. Patrick Kassongwa qui était à la prise de son micro, qui l'écoutait. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocampus.net. Bon week-end chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.